Après, je vous les présenterai dans la présentation, mais comme ça, elles peuvent déjà vous faire un coucou. Donc, on a Alexia du laboratoire de transition intérieure de Pain pour le prochain et Action de Carême en rouge.
Bonsoir.
Élise Magnana de Pôle Sud.
Bonsoir à tous.
Michel Egger aussi du laboratoire de transition intérieure Pain pour le prochain et Action de Carême. Ton micro
Ah
est
non,
coupé, Michel.
bonsoir à toutes et tous.
Audrey Gauthier du VVF et moi-même
Pardon.
aussi du VVF. Et puis notre intervenante, donc Charline Schmerber.
Bonsoir.
Donc, je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien?
Oui.
Ok, super. Donc, bienvenue à toutes et à tous à cette première conférence d'un cycle de trois conférences qu'on a décidé d'organiser, de co-organiser donc avec le laboratoire de transition intérieure, donc Pain pour le prochain et Action de Carême et Pôle Sud. On est très heureuse et heureux de pouvoir vous proposer ce cycle de trois conférences et puis suivi de trois ateliers le lendemain matin pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin dans la thématique et un peu plus dans l'échange qui est plus difficile avec autant de participants qu'on a ce soir. Donc cette première conférence qu'on a intitulée Et si nous transformions l'éco-anxiété en éco-sérénité avec donc Charline Schmerber, que je laisserai Michel vous présenter tout à l'heure. Donc, au niveau de l'équipe, je vous les ai déjà un petit peu présentés. Vous avez ici un peu plus de détails sur les personnes qui ont organisé la conférence. Et puis, on veut remercier aussi chaleureusement tous nos partenaires qui, du coup, ont aussi soutenu la transmission et la communication de la conférence. Merci beaucoup à eux. Pour le déroulement du webinaire, donc, on va donc avoir une présentation de Charline pendant environ 45 minutes. Et puis ensuite, vous aurez un petit moment d'échange dans des sous-groupes de trois, simplement pour échanger un peu sur ce que vous aurez entendu. Ensuite, on fera une partie questions-réponses. Donc, vous êtes invités à écrire vos questions dans le chat pendant la conférence ou après. L'idée, c'est plutôt du coup, après, c'est moi qui vais poser les questions directement à Charline parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de questions et c'est plus facile à gérer comme ça que si les personnes prennent directement la parole. Donc, je vous invite plutôt, surtout pendant la conférence, de couper votre micro aussi. Et puis, suite à ça, on fera une conclusion. Au niveau des conseils d'utilisation pour Zoom, pour les personnes qui sont peu familières avec cet outil qu'on utilise maintenant abondamment. Donc, comme je disais, c'est vraiment bien de vous mettre en silencieux quand vous ne parlez pas. Donc, vous trouvez sur la barre en bas, tout à gauche, vous pouvez activer ou désactiver votre micro et votre vidéo. Donc, vous pouvez très bien aussi, pendant la conférence, couper la vidéo. C'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi la laisser. Si vous avez des soucis de connexion, des fois, c'est mieux de couper la vidéo. Ça peut régler le problème si votre connexion n'est pas très stable. Ensuite, vous avez un onglet participants. Vous pouvez voir les personnes qui participent à la conférence. Vous avez ensuite le chat où c'est marqué des fois discussion en français. Donc, si vous voulez poser vos questions. Si vous avez un problème technique, vous pouvez écrire par message privé dans le chat à Audrey Gauthier et puis elle vous aidera. Le point numéro 5 en haut à droite, vous pouvez changer la vue si vous voulez voir, changer l'affichage, voir toutes les personnes ou modifier la vue. Voilà. Je vais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais passer la parole à Alexia pour un petit moment de centrage.
Merci Ingrid.
Alors, on vous propose une invitation pour un petit moment de centrage et d'ancrage pour permettre à tout le monde de bien arriver, de se connecter aussi à soi. Alors, je vous propose de vous installer déjà confortablement dans une posture qui vous est à l'aise, de fermer les yeux si vous le souhaitez, d'avoir le dos, si possible, droit. Et voilà, et de prendre le temps de se détendre, de relâcher le corps. Et puis de poser aussi les pieds au sol, si c'est possible. Et simplement d'étendre tout cet espace. Et prendre conscience de votre assise, là où vous touchez le canapé, la chaise, le coussin. Prendre conscience de ce contact de votre corps et aussi du sol sous les pieds. Et puis, vous pouvez imaginer à partir de ces pieds, de la plante des pieds, des racines comme des arbres. Des racines qui vont sortir et qui vont entrer et pénétrer la terre, le sol. Et qui partent de vos pieds. Et à chaque respiration, imaginez ces racines qui deviennent toujours plus puissantes, intenses, qui s'enfoncent toujours plus profondément. Qui se relient entre elles. Et puis, je vous invite à prendre quelques inspirations, expirations bien conscientes, profondes, toujours en ayant la conscience sur ses racines et en puisant cette énergie à travers l'inspiration, cette énergie qui remonte, qui arrive dans les poumons pour se dissiper dans toutes nos cellules, dans nos tissus, dans nos fluides. Cette énergie qui circule et qui, à l'expiration, repart vers la terre. Simplement, voilà, prendre quelques respirations bien conscientes. Et puis gentiment, je vous invite à faire quelques mouvements du corps pour reprendre conscience avec l'ici et le maintenant, l'instant présent. Vous pouvez réouvrir les yeux aussi, se reconnecter avec toutes les têtes et les visages qu'on voit à l'écran. On peut aussi s'étirer ou bâiller si vous voulez. Et se reconnecter à cette grande forêt que nous formons ce soir, tous ensemble. Merci. Et donc, je vais laisser la parole à Michel, si c'est bien juste.
Oui.
C'est bien juste. Merci, Alexia. Voilà, donc pour inaugurer ce cycle de conférences et d'ateliers en trois temps, sur comment passer de l'éco-anxiété à l'action, comment traverser, on pourrait dire sans désespérer, les effondrements en cours et à venir, ben, il nous a semblé important, dans ce premier moment, de pouvoir bien saisir les ressentis et les souffrances psychiques qui peuvent naître en fait, des réalités écologiques et climatiques actuelles, mais aussi des récits sur ces réalités, comme ceux développés par la collapsologie. Et là, on est en face d'un syndrome émotionnel que l'on appelle de diverses manières, comme l'éco-anxiété, la solastalgie ou encore l'effondralgie. Et cette dernière expression, eh bien, elle a été développée par une spécialiste de ces questions, Charline Schmerber, que nous avons la grande joie d'accueillir ce soir. Charline est praticienne en psychothérapie, elle habite Montpellier. Et très sensible à ces questions, elle a réalisé en octobre 2019 une enquête assez retentissante sur l'éco-anxiété afin de mieux comprendre les tenants aboutissants de ce phénomène et surtout d'offrir un accompagnement pertinent. Donc, elle propose un travail en psychothérapie autour des problématiques écologiques et cela dans le cadre de son cabinet, mais aussi à distance, ainsi d'ailleurs qu'à travers un accompagnement nature de manière individuelle ou collective. Et à cet égard, en complément de sa formation, on a à l'analyse psycho-organique et elle s'intéresse aujourd'hui à des pratiques qui favorisent la reliance avec le vivant. Et elle s'est notamment formée au Shinrin Yoku, cette méthode japonaise qu'on appelle aussi le bain de forêt. Voilà, Charline Schmerber est encore l'auteur du site www.solastalgie.fr. que je vous invite à aller visiter. Voilà, Charline, un tout grand merci d'avoir répondu présente à notre invitation et à toi la parole.
Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction. Alors, je vais essayer de vous partager mon écran. Tac. Alors, normalement, vous devez voir mon écran.
Oui,
c'est bon. Alors, et ben pour commencer, je suis vraiment ravie de pouvoir être parmi vous ce soir et puis de démarrer ce cycle de conférences sur ce sujet qui me touche tout particulièrement, qui est donc celui de l'éco-anxiété. Et pour démarrer, j'ai envie de vous expliquer un peu ce qui m'a amené moi à me focaliser, à regarder un peu ces nouvelles thématiques. Alors, si je m'y suis intéressée et que j'ai ouvert ma pratique professionnelle donc à ces nouvelles souffrances psychiques qu'on appelle éco-anxiété et solastalgie, c'est avant tout parce que je les ai vécues et que je continue à les vivre dans mon quotidien. Alors, la crise environnementale, elle a véritablement impacté ma manière d'être au monde. Elle a touché la femme, la citoyenne, la thérapeute et aussi l'unité psycho-organique que je suis et qui fait partie de ce vivant qui, aujourd'hui, est bien malmené et qui, si je peux le dire comme ça, s'effondre. Alors, ma prise de conscience, ma capacité à regarder le monde avec des yeux neufs, comme le dit Johanna Macy, elle n'est pas si ancienne. Ça fait vraiment 5 ans que j'ai eu ce que j'appelle une espèce de phase d'éveil écologique et que j'ai remis en question toute la manière dont je percevais le monde, tout ce qui était mes croyances. Et je me suis beaucoup interrogée sur quoi faire, qu'est-ce que je pouvais faire. Donc, je me suis posé cette question-là. Donc, alors, je suis allée peut-être comme certains de vous creuser certaines pistes. Donc, je suis allée faire une formation en permaculture dans une ferme pédagogique en me disant qu'au moins je saurais comment pouvoir cultiver mes carottes. Et puis, au bout d'un moment, j'ai quand même réalisé que même si j'aime beaucoup la nature, passer du temps en nature, Bon, moi et la permaculture, ça fait quand même deux. Donc, je me suis reposé une autre question qui était, mais en fait, qui est-ce que je suis moi et par rapport à ça, qu'est-ce que je peux faire? Et mon métier, c'est de créer l'espace pour l'autre, de manière à ce que les personnes puissent venir déposer leurs craintes, leurs peurs, leurs espoirs et leurs doutes. Et donc, c'est ça qui a fait que j'ai décidé en 2019 donc d'intégrer dans ma pratique la réalité du monde actuel tel que je le perçois et de proposer donc un espace où la lucidité par rapport à l'état du monde pourrait être entendue, accueillie et non jugée. Alors, je reçois à mon cabinet et aussi effectivement à distance des personnes qui arrivent pour motif d'éco-anxiété et de solastalgie. Donc, c'est ce dont je vais vous parler. Et je tiens vraiment à dire que cette conférence, c'est un partage d'expériences. C'est, je vous partage ça en toute humilité. C'est vraiment des choses que j'ai pu comprendre à travers les différents patients que je peux recevoir et qui me font confiance, et aussi à travers l'enquête dont parlait Michel Maxime que j'ai fait fin octobre 2019. Donc, il s'agit en aucun cas de vérité et de certitude. C'est une proposition de regard, c'est un partage, vraiment un retour d'expérience, d'autant plus que c'est un sujet, ces nouvelles formes de souffrance psychique, c'est des sujets assez récents. Donc, il y aura matière à compléter ce que je vais vous partager. Alors, pour démarrer, je vous propose de... Alors, je vous propose de repartir sur les concepts, en fait, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'on parle. Alors, quels sont les mots qui sont cachés derrière ces mots? Alors, en France, le terme d'éco-anxiété a commencé à vraiment retentir beaucoup dans les médias à l'été 2019. Et il y a eu aussi le terme de solastalgie, dépression verte, burn-out écologique, angoisse climatique. Et puis, comme ça ne suffisait pas, moi, j'en ai rajouté un autre, la collapsalgie, effondralgie. Et je vous propose de regarder, donc de vous expliquer un peu quelles sont ces trois notions-là. Donc, l'éco-anxiété, c'est la notion qui est la plus ancienne. C'est un terme qui est arrivé dans les médias, dans la sphère publique, en 1990. La solastalgie, c'est un terme qui est, lui, plus récent, qu'on doit à Glenn Albrecht, qui était professeur à l'université de Murdoch en Australie, qui est un philosophe de l'environnement, un chercheur dans l'environnement. Et la différence entre ces deux notions, alors elles sont souvent employées l'une pour l'autre. Le docteur Alice Desbiol, qui a écrit un livre sur l'éco-anxiété, elle parle de fausses jumelles, c'est un terme que je trouve intéressant. Et alors moi, la façon de vraiment les différencier, c'est quand on se place dans la temporalité de l'expérience que vit le sujet. Alors, c'est-à-dire, pour l'éco-anxiété, c'est une forme de souffrance prospective qui est déclenchée par une projection vers l'avenir et qui est en lien avec la prise de conscience écologique. Alors, le symptôme de l'anxiété n'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est la cause qui génère ce symptôme. Pour la solastalgie, c'est une détresse qui est rétrospective. C'est-à-dire que la solastalgie, on constate de la perte d'un environnement alors qu'on est toujours dedans. Solastalgie, donc ce terme créé par Glenn Albrecht, il est composé du mot latin solatium, qui veut dire réconfort, et de la racine grecque algie, qui est donc relatif à la douleur. Et donc, à la différence de la nostalgie, où on éprouve un certain nombre d'émotions par rapport à de la tristesse, par rapport à un lieu qu'on a quitté, la particularité de la solastalgie, c'est qu'en fait, cette forme de souffrance, d'être triste, pour cette terre ou cet espace qu'on est en train de perdre, on est encore dedans. C'est vraiment ça qui fait la différence avec, avec la nostalgie. Et donc, par rapport à ces deux notions, alors moi, je parlais beaucoup, j'avais du mal à, la, à les rassembler. Alors, je parlais beaucoup de nouvelles souffrances psychiques issues des phénomènes d'effondrement en cours. Alors, quand j'écrivais ça, c'était assez long. Et à un moment, je me suis aussi interrogée par rapport à, aux patients que je suis amenée à recevoir. Et il y avait un phénomène que je remarquais qui était une forme d'effondrement intérieur des individus. C'est-à-dire que les effondrements actuels de la planète, enfin, tout ce qu'on est en train de constater, ça génère en miroir chez les individus un effondrement intérieur. Et donc, c'est ce que j'ai appelé collapsalgie ou effondralgie. Donc, collapse qui vient de d'effondrer et algie qui est donc aussi relatif à la douleur. Donc, c'est vraiment toute cette dimension des émotions qui sont générées par l'ensemble des phénomènes d'effondrement et qui provoquent donc chez les individus un effondrement intérieur. Voilà, cette souffrance, elle est pour moi à la fois rétrospective, présente et prospective. Alors, je vais vous proposer de vous expliquer un peu de quoi ça parle, en fait, parce que je vous donne un peu des concepts, mais comment est-ce que ça se manifeste chez les individus? Quels sont les symptômes? Et là, je vais m'appuyer, je vais vous partager trois slides qui sont extraits de l'enquête que j'ai faite en fin d'année 2019, en octobre, entre le 11 septembre et le 11 octobre. Donc, j'ai mis en ligne un certain nombre de questions autour de l'éco-anxiété, de manière à pouvoir, comme je commençais à recevoir pas mal de patients par rapport à ces thématiques-là, j'avais vraiment besoin de pouvoir comprendre ce qui était un peu caché derrière l'éco-anxiété, ce que ça voulait dire, de manière à pouvoir vraiment mieux accompagner les personnes que j'étais amenée à recevoir. Donc, je vous partage trois enseignements. Alors, il y a plus dans l'enquête, mais là, j'ai choisi de pouvoir vraiment parler des différents symptômes qui me semblent les plus importants pour caractériser ce que sont l'éco-anxiété et la solastalgie. Alors, le grand enseignement, c'est que il n'y a pas juste de l'anxiété, c'est que c'est... J'avais posé la question aux différents participants, il y a eu quand même plus de 1200 personnes qui ont choisi spontanément d'y répondre. Donc, c'est une enquête qui n'est pas représentative, mais qui est un peu une enquête témoignage. Et alors, ce qu'il est ressorti de cette enquête, c'est que... Donc, j'ai demandé aux personnes, en dehors de cette éco-anxiété, est-ce que vous ressentez d'autres sentiments? Et pour 83% des participants, oui, il y avait autre chose que de l'anxiété. Et 175 termes différents ont été utilisés pour partager les différents ressentis que j'ai pu catégoriser un peu. Alors, j'aime pas dire qu'il y a des émotions positives ou négatives, néanmoins, il y avait une teinte particulière dans certains termes. Donc, il y en avait 114 qui étaient plutôt négatifs et 61 positifs. Et là, on peut le voir un peu dans ce nuage de mots que les 5 plus cités, c'était la colère, la tristesse, l'impuissance, la peur et un peu loin derrière, mais ça donne quand même une certaine couleur, l'espoir. Et la plupart des personnes ont partagé le fait de ressentir différentes émotions, en fait. Vraiment, il y a eu un partage de plusieurs ressentis. Je vous partage juste un extrait d'un verbatim d'une personne qui m'avait mis en commentaire quelque chose qui me semble assez représentatif de ces plusieurs ressentis. La personne avait exprimé colère, honte de faire partie de cette espèce prédatrice, destructrice, la rage de les voir s'engraisser face aux vivants qui agonisent, le sentiment de perte, de deuil, une conscience aiguë et douloureuse comme si j'entendais la terre hurler de souffrance, les animaux, les végétaux. Alors, c'est cette palette d'émotions qui va au-delà de l'anxiété. Moi, ça m'a fait vraiment m'interroger sur le choix de ce terme, en fait, d'éco-anxiété. Et là, je vais citer l'éco-psychologue français qui est Jean-Pierre Le Danf, qui avait aussi interrogé cette question de pourquoi est-ce qu'on parle que d'éco-anxiété, mais pas aussi d'éco-joie, d'éco-colère, d'éco-impuissance. Donc voilà, c'est un peu la limite, moi, qui m'est apparue par rapport à ce terme d'éco-anxiété. Il me semble qu'il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en considération en dehors de l'anxiété. Autre enseignement qui m'a semblé intéressant de vous partager, c'était qu'est-ce qui génère, en fait j'ai interrogé les gens sur qu'est-ce qui génère chez vous cette forme d'éco-anxiété. Alors il y a eu, je leur avais demandé de catégoriser, enfin, de pouvoir lister un peu ce qui les interpellait par rapport à la biodiversité, le réchauffement climatique, plein de facteurs en lien avec la dimension environnementale. Et je les ai donc interrogés sur les autres facteurs générateurs d'anxiété. Et ce qui est ressorti, c'est vraiment six thématiques. Ça va de la sphère individuelle, avec des craintes par rapport à situation d'isolement, d'extinction, de nature humaine, de réaction individuelle, à une dimension économique avec un potentiel crash de l'économie, à la dimension politique et géopolitique. Était mentionné aussi ce qu'on voit dans le nuage de mots, les menaces systémiques avec la crainte de la guerre, de la violence, la montée des extrêmes, et aussi les risques de pandémie et éventuellement tout ce qui pourrait toucher aux besoins de base, enfin atteindre les besoins de base. Donc j'ai été assez étonnée là, suite à ça, on a eu la pandémie du Covid-19, et donc de voir que c'était déjà mentionné en octobre 2019 comme une cause, enfin en tout cas un facteur qui aurait pu générer chez les individus de l'anxiété. Et les deux derniers points de ces facteurs-là que j'ai classifiés, c'était vraiment aussi toute une dimension sociale avec les inégalités, les injustices et bien évidemment la dimension environnementale. Donc, je vous répète rapidement les six catégories, tout ce qui est sphère individuelle, la dimension écologique, économique, politique et géopolitique, les menaces systémiques, la société et l'environnement. Voilà, et dernier enseignement qui me semble intéressant de vous partager, c'est l'influence. En fait, j'ai interrogé les participants sur comment est-ce que cette forme d'éco-anxiété, elle impactait leur mise en mouvement et leur manière d'agir. Et donc, il y a trois profils qui sont sortis. Alors, j'aime beaucoup les arbres, hein, vous aurez compris à la fin de cette présentation. Une des typologies, c'est une forme de paralysie. Donc, il y a 30% des participants qui indiquaient le fait que l'éco-anxiété, elle a généré chez eux une paralysie qui a bloqué l'action avec beaucoup de doutes, une difficulté à prendre des décisions, à choisir. Ça pouvait même impacter toute la dimension physiologique avec présence d'insomnie, des idées qui tournent en boucle, des obsessions autour d'essayer de trouver des réponses à ces questions qui tournaient en boucle. Donc, des personnes qui étaient vraiment figées, comme après dans une forme de traumatisme, dans une phase un peu de choc et de sidération. Pour 10% des participants, il y avait une forme d'ambivalence, donc oscillation entre envie d'agir et sentiment d'impuissance, donc quelque chose de pas linéaire qu'on retrouve bien dans la courbe de deuil qu'a créée Elisabeth Kubler-Ross, et elle explique bien que c'est pas linéaire, en fait, on passe par différents stades, et donc c'était vraiment une des tendances qui est ressortie, cette forme d'ambivalence entre j'ai envie d'agir, puis après je suis tellement submergée par l'impuissance que je m'effondre, ou que mon action se fige. Et enfin, dernière tendance, c'était donc la mise en mouvement, l'émergence de l'action, l'envie de se mettre en mouvement. qui est vraiment un moyen de traverser ce ressenti d'éco-anxiété. Et donc, les participants ont partagé le fait de rejoindre des associations, de pouvoir participer à des actions militantes, le fait de transformer dans leur mode de vie, de mettre en place une transition au sein du foyer. Ça a donné envie de faire des choses et ça leur a permis aussi de cultiver un sentiment d'utilité qui vient souvent faire, je vous l'expliquerai par la suite, rempart à l'impuissance. Voilà, donc c'était les trois grandes tendances de cette enquête qui sont sorties. Vraiment la dimension émotionnelle qui va au-delà de l'anxiété. Comment est-ce que ça touche l'action et quels sont les différents facteurs qui viennent générer cette éco-anxiété. Maintenant, j'ai envie de vous partager un peu, de répondre à la question qui sont les éco-anxieux. Dans ma pratique, c'est dessiné un peu à travers les différents récits des personnes qui arrivent, les thématiques. Moi, je vois aujourd'hui trois profils de patients. Et c'est une typologie que j'avais commencé à faire en août 2019 et qui à l'été 2019 et qui finalement se confirme. Enfin, il n'y a pas de différence de majeure et c'est vraiment j'arrive à recouper les différentes personnes qui arrivent dans une des trois catégories que je vais vous présenter. Donc il y a les personnes qui arrivent en situation de burn-out écologique. Vraiment dans une dimension très, très fatiguée, avec beaucoup de tristesse, un débordement d'émotions, une grosse fatigue. C'est souvent des gens qui travaillent dans un milieu proche de l'environnement, qui sont confrontés vraiment à des mauvaises nouvelles de manière récurrente. Premier profil de patient. Le second, c'est des personnes qui vont arriver suite à ce que j'appelle vraiment un éveil écologique traumatogène. C'est-à-dire qu'ils vont vivre une forme de traumatisme de par la prise de conscience écologique, de par ce nouveau regard sur le monde qui va générer différentes phases que je vais vous expliquer à travers un petit récit clinique. Et c'est souvent des gens qui arrivent par le biais de la prise de conscience, notamment des récits d'effondrement comme la collapsologie, par exemple. Ça peut générer une forme d'éveil écologique avec un potentiel traumatogène. Et enfin, ceux que j'ai appelés les éveillés lucides, qui sont des personnes qui ont été toujours sensibles à la question de l'environnement et qui ont toujours su qu'il y a quelque chose qui dysfonctionnait dans le monde dans lequel on évolue. Alors, je vous propose de vous partager de manière humanisée un peu, parce que bon, la théorie, c'est bien, mais de pour donner un peu de corps à ces différents récits, ces différentes typologies de patients, je peux bien évidemment pas partager ce qui se dit en séance. Et donc, je ne peux pas partager par souci de confidentialité, bien évidemment. Donc là, je vous ai proposé, j'ai reconstitué ce qu'on appelle des récits cliniques. Donc, ce ne sont pas des vraies personnes. Andrea n'existe pas, mais c'est une manière de pouvoir vous remettre en perspective les différents thèmes qui émergent au cours des séances dans ces trois typologies de patients. Donc Andrea, elle a 35 ans, elle arrive donc dans ce que j'appelle un burn-out écologique. Elle a un petit garçon de 5 ans, une fille de 3 ans. Elle habite en couple avec Yann depuis 10 ans. Et Andrea, elle est chercheuse en agroécologie, ce qui fait qu'elle est confrontée à une pratique terrain de ce qu'elle me dit être des mauvaises nouvelles permanentes. Donc, elle arrive dans un état de fatigue émotionnelle intense. Elle me dit qu'elle est en plus hypersensible et qu'elle a vraiment le sentiment de porter le monde sur son dos. Et elle me dit au cours de l'entretien, mais comment est-ce que je vais faire pour faire ce métier pendant plusieurs années? J'ai 35 ans et là, je suis déjà très, très fatiguée, à bout de force. Elle me dit aussi que ça atteint, elle a du mal à ressentir de la joie. et de partager la joie avec ses enfants, ce qui est quelque chose qui la rend profondément triste. Elle a même une crainte par rapport à ses enfants quand elle les regarde. Elle se demande dans quel monde est-ce qu'ils vont vivre, qu'est-ce qu'il faut qu'elle leur apprenne. Donc il y a vraiment une remise en question de sens, en fait. Elle arrive dans une perte de sens par rapport à sa posture professionnelle du métier qu'elle fait, qu'elle trouve très complexe, d'autant plus qu'elle s'aperçoit qu'il y a vraiment tout un système avec des rouages où elle est obligée de brosser certaines personnes dans le sens du poil, donc ça ne va pas dans le sens de ses valeurs et de ce qu'il faudrait faire par rapport à l'environnement ou de la bonne manière de faire. Donc il y a vraiment une grosse dissonance cognitive qu'elle vit au quotidien dans son travail. Donc je l'aperçois vraiment quand elle arrive dans une forme de crise de foi un peu écologique. Donc on a été amené à travailler sur comment est-ce qu'elle peut lâcher prise, comment est-ce qu'elle peut aussi intégrer la notion de limite, qui est quelque chose de très important quand on est dans une forme de burn-out, de pouvoir intégrer les bonnes limites, une bonne sécurité à l'intérieur de soi. Et elle apprend au fur et à mesure aussi une forme de lâcher prise pour permettre de retrouver une forme d'insouciance et aussi de joie au quotidien. Je vous partage maintenant le récit de Cécile, qui est donc une patiente qui arrive dans un éveil écologique traumatogène, ce que j'appelle dans une forme de traumatisme. Donc, c'est une jeune femme qui a 23 ans, qui vient de finir une école de commerce. Elle est en couple depuis 3 ans avec Héloïse, qu'elle a rencontrée elle aussi en école de commerce. Et Héloïse, elle travaille dans un cabinet d'audit. Et donc, Cécile arrive en me disant qu'elle a eu une prise de conscience pendant l'été. Elle est tombée sur une vidéo de Cyril Dion et petit à petit, rebond en rebond, elle a découvert la notion de collapsologie. Elle a lu le premier livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer ». Et elle me dit qu'elle a vécu ce que je perçois comme une forme de traumatisme, différentes phases, donc une phase d'immobilisme avec du choc et de la sidération. Ensuite, il y a une forme de fuite avec un mécanisme de déni où elle ne voulait plus voir, où ce n'était pas possible, où non, ce n'était pas la réalité de ce qu'elle était en train de percevoir. Après, il y avait une forme d'envie de combattre le danger, donc vraiment quelque chose de l'ordre de la survie qui se met en place. Ensuite, toute une forme de soumission totale qui l'a amenée à ressentir beaucoup d'impuissance. Et quand elle arrive, après, on travaille sur la notion de rétablissement et récupération. Donc, c'est les 5 phases vraiment qu'il y a dans quand on est amené à vivre un traumatisme. Et elle me partage aussi souvent cette envie de retrouver l'état d'avant, de retrouver un peu cet état antérieur de perception du monde qui était un peu plus insouciante. Et elle me dit souvent que elle aimerait bien pouvoir être un peu comme les gens dans le déni, parce que ça doit être plus facile à vivre que cette forme de lucidité qui fait mal. Et une thématique importante qui est dans ce récit de Cécile, c'est qu'elle n'est pas comprise, elle se sent très seule et elle n'est pas entendue par sa compagne dans son couple, et ça vient cet éveil est générateur de conflits un peu au sein de sa famille, au sein de son couple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je retrouve souvent, la notion de d'effondrement, ou en tout cas de cet éveil écologique, ça met à mal les liens. Voilà, et donc on a trouvé des pistes de travail qui lui ont permis de pouvoir trouver des endroits où elle a pu partager avec d'autres, mettre en commun. Et elle s'est interrogée aussi beaucoup sur le sens de son métier. Elle a choisi de travailler dans la finance de marché. Donc voilà, elle est en train de réfléchir à cette piste de potentiellement réorientation pour faire quelque chose qui aurait plus de sens pour elle. Et enfin, dernier récit clinique. Je vais vous partager le cas donc d'Olivier, un éveillé lucide. Alors Olivier, il est arrivé à mon cabinet pas du tout pour une problématique d'éco-anxiété, parce qu'initialement je reçois tout type de problématiques. Donc, il a 46 ans, il est cuisinier, il est célibataire et lui, il vient pour une problématique d'avoir des difficultés à se mettre en couple. Et au fur et à mesure des séances, je perçois, parce qu'il m'en parle, de sa sensibilité par rapport à l'environnement. Il me dit avoir été éduqué par des parents écolos dans une forme de décroissance. C'est quelqu'un qui est dans l'action, qui est engagé dans un magasin coopératif. Il mange local, il vient au cabinet à vélo, il se déplace, il prend plus l'avion. C'est vraiment quelqu'un qui a intégré toutes ces notions environnementales depuis très longtemps. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'à un moment, et c'est vraiment le cas de ce que des personnes que j'appelle vraiment les éveillés lucides, c'est qu'il arrive un jour en me disant « j'ai découvert un mot, Charline, c'est la solastalgie ». Et ça y est, je comprends ce que je ressens. J'ai enfin mis un mot sur quelque chose que j'avais jamais pu exprimer. Et ce mot-là vient bien parler de ce malaise, cette espèce de forme de décalage que j'ai toujours senti entre les gens qui n'étaient pas forcément conscients et ma perception du monde. Voilà. Alors, bien évidemment, je pense qu'il y aura peut-être des typologies d'autres. Il y aurait probablement d'autres manières de faire ou de classifier, si je peux dire comme ça, ces différents patients. En tout cas, à l'heure actuelle, moi, c'est vraiment ces trois profils-là que je perçois. Le burn-out écologique des personnes qui sont souvent en lien avec un métier dans le contexte de l'environnement. Cet éveil écologique traumatogène, souvent par le biais des récits d'effondrement, qui génèrent donc ce que j'appelle l'effondralgie, parce que ça vient vraiment toucher l'individu et ça l'effondre intérieurement. Et enfin, les lucides éveillés. J'ai envie de vous partager, avant de passer à toute la dimension un peu de constat, un extrait d'un livre qui est magnifique, qui est l'ouvrage de Nastasia Martin. Et elle parle d'une forme d'éco-anxiété et de solastalgie. Donc, je vous lis juste un extrait de ce livre. Combien de psychologues me prendraient pour une folle si je leur disais que je suis affectée par ce qui se passe hors de moi ? Que l'accélération du désastre me pétrifie, que j'ai l'impression de ne plus avoir prise sur rien. Ah, voilà donc la raison qui vous pousse à vous accrocher aux montagnes. Oui, et là où ça devient grave, c'est que même la montagne s'effondre. Faute de cohésion, à cause de la glace qui fond, faute à la canicule. Les prises cassent, les rochers tombent. Voilà la réalité. Et les amis s'écrasent au pied des parois. Suis-je en train de filer une mauvaise métaphore d'alpiniste ? Je ne crois pas. Je ne peux pas la circonscrire exactement, mais j'ai une certitude. Quelque chose résonne en moi, quelque chose qui fait mal et qui désoriente. Cela aurait été si simple si mon trouble intérieur se résumait à une problématique familiale irrésolue, à mon père disparu trop tôt, aux attentes insatisfaites de ma mère. Je pourrais dès lors résoudre ma dépression, mais non. Mon problème, c'est que le problème n'appartient pas qu'à moi, que la mélancolie qui s'exprime dans mon corps vient du monde. Je crois que oui, il est possible de devenir le vent qui souffle à travers nous, comme disait Laurie, et qu'il est commun de ne pas en revenir, comme lui, comme tant d'autres. J'ai rejoint les Évènes d'Icha et j'ai vécu dans une forêt avec eux pour une raison bien en deçà de celle d'une recherche comparative. J'ai compris une chose. Le monde s'effondre simultanément de partout, malgré les apparences. Ce qu'il y a à Tvayan, c'est qu'on vit consciemment dans ses ruines. Il me semble néanmoins important de préciser par rapport à ces typologies de patients, c'est que souvent l'éco-anxiété, c'est un peu, je prends toujours un peu cette image de l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que parfois c'est vraiment une clé d'entrée pour aller travailler en profondeur sur d'autres thématiques. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, bien évidemment, de traiter cette éco-anxiété, mais voilà, je m'aperçois quand même que souvent, les personnes qui arrivent pour cause d'éco-anxiété, solastalgie, effondralgie, c'est des personnes qui aussi ont besoin de travailler un peu sur des problématiques d'effondrement intérieur, donc il y a des choses à reconstruire, voilà, et à les regarder un peu plus en profondeur. Alors oui, le nom de l'auteur, et je vous le donnerai, c'est Nastasia Martin, qui a travaillé, elle a fait une thèse avec Descola, qui a écrit par-delà nature-culture. Elle est anthropologue, donc elle raconte dans ce livre la rencontre qu'elle a faite avec un ours. Donc, je vous donnerai les références, mais c'est un livre vraiment que je vous invite à lire. Donc, je vous propose maintenant de poser rapidement un constat sur le monde actuel. J'ai souvent coutume de dire à mes patients qu'il y a deux manières de regarder une situation, qu'il y a des choses positives et des choses plutôt négatives. Je vais vous partager plusieurs... alors, c'est mon regard à moi, mais la manière dont je perçois la situation actuelle, on est en train de traverser une crise. On est dans une crise sanitaire, bien évidemment, mais c'est une crise aussi qui touche d'autres domaines. Je pense qu'on est dans une crise véritablement existentielle. On est dans une crise identitaire. C'est une crise qui révèle vraiment notre insécurité identitaire, notre fragilité narcissique. Elle nous interroge sur ce que ça signifie vraiment d'être un être humain et sur notre identité en tant qu'espèce. Cette crise, c'est aussi, comme le dit Baptiste Morisot, une crise de la sensibilité, une crise de nos relations au vivant. Et là, je vous lis un court extrait de son ouvrage « Manière d'être vivant ». Alors, Baptiste Morisot écrit « Mais c'est aussi une crise d'autre chose, de plus discret et peut-être de plus fondamental. Ce point aveugle, j'en fais l'hypothèse, c'est que la crise écologique actuelle, plus qu'une crise des sociétés humaines d'un côté ou des êtres vivants de l'autre, est une crise de nos relations au vivant. » Si on s'en réfère à l'étymologie du mot crise, crise, ça vient à la fois du latin crisis, veut dire manifestation violente, brutale d'une maladie. Et dans l'étymologie grecque, crisis, qui s'écrit avec un K, ça signifie jugement, décision, choix ou lutte. Donc c'est aussi un moment clé, un moment charnière où il est question de prendre une décision, de décider quelque chose. Et pour moi, ce terme de crise, il contient à la fois cette double force, à la fois de douleur, effectivement, parce que ce qu'on vit, c'est très difficile, douleur, de supplice et aussi d'opportunité. Autre notion, c'est la notion de séparation qui me semble vraiment représentative de la société que nous avons créée. On vit dans une société où on s'est séparé du vivant, où on est séparé aussi de nos corps. Alors, on est des têtes pensantes qui souvent oublions qu'on est une unité psycho-organique. Donc, on est déconnecté, je trouve qu'on est vraiment déconnecté de nous-mêmes et du reste du vivant. Alors, ça, c'est aussi en lien avec une représentation qu'on a par rapport à la nature qui nous vient de Descartes. Alors les humains sont maîtres et possesseurs de la nature, donc on entretient avec le vivant vraiment un rapport de sujet-objet qui est nourri par cette fausse croyance que nous pouvons utiliser la nature. Et ce processus de séparation, on le vit d'autant plus aujourd'hui à travers la crise du Covid, où on est clairement séparés. Alors là, je vous parle, je devais venir à Lausanne pour faire cette conférence. Finalement, on est quand même en lien, mais on est séparés les uns des autres. On peut pas, il y a des processus de distanciation sociale. Donc voilà, ça accentue d'autant plus ce processus. Enfin, ces différents processus qu'on vit individuellement de séparation. Alors, l'incertitude, je pense que vous êtes tous conscients de devoir... Alors, c'est Johanna Macy qui dit ça, et Michel Maxime le reprend souvent, le fait de devoir danser aujourd'hui, il faut apprendre à danser avec l'incertitude. En France, on ne savait pas jusqu'à hier soir si on allait pouvoir passer les fêtes de Noël, donc on était un peu suspendu à l'allocution du président pour savoir ce qu'il allait advenir de nous dans les mois à venir. Donc il y a vraiment une notion avec laquelle il faut apprendre à vivre qui est celle de l'incertitude, qui est une notion qu'on aime pas du tout parce qu'on a besoin de pouvoir se projeter. Donc c'est quelque chose de très désagréable qui invite vraiment à pouvoir lâcher prise. Autre notion intéressante pour caractériser un peu cette période, c'est celle du traumatisme. On est dans un traumatisme un peu particulier parce que c'est un traumatisme qui est à la fois actuel et aussi prospectif. C'est-à-dire que contrairement à d'autres formes de traumatisme, on n'est pas en capacité de le mettre derrière. On peut pas se dire « Ok, bon, bah, j'ai géré mon trauma puis je continue à avancer. » Non, en fait, c'est quelque chose qui reste présent et c'est ce qui rend aussi cette situation un peu complexe, c'est que on ne peut pas se dire qu'on a dépassé ça. Et autre fait ambivalent, c'est qu'on est à la fois auteur et victime de ce traumatisme. Quoi qu'on fasse, on participe un peu à la crise environnementale, à venir un peu en rajouter. Là, si je prends l'exemple de ce soir, alors je vous parle des problématiques actuelles et on est sur Internet. Donc, même si on essaye de faire quelque chose de positif en parlant des manifestations actuelles, je prends souvent l'exemple de il faudrait pouvoir aller habiter dans la forêt, être complètement déconnecté, ce qu'on ne peut pas faire. Dans tous les cas, quoi qu'on fasse, on est amené à être, dans tous les cas, acteur de cette forme de traumatisme que nous vivons. Et dernier élément intéressant pour caractériser cette période, c'est vraiment la notion d'espace liminal. C'est vraiment un temps qui est au seuil de nos perceptions, qui se définit de notre entendement. L'espace liminal, c'est relatif à une limite et c'est un temps dans lequel on entre à des moments de rupture et de transition. On peut vraiment percevoir cette période comme ça. C'est un temps que forcément notre société n'aime pas parce qu'on est une société où on a besoin de temps rempli avec un vide qui est souvent insupportable. Mais en même temps, ce vide, c'est un potentiel de création, d'expression et de créativité. C'est aussi une possibilité de descendre vraiment dans nos profondeurs et c'est un temps qui peut densifier notre existence à condition que nous n'ayons pas peur de le traverser. Et je vous propose maintenant de regarder un peu l'envers du décor, c'est-à-dire que il y a deux manières de regarder une situation, comme je vous le disais. Il y a aussi dans ce potentiel de ce présent que nous vivons, beaucoup d'opportunités. Et là, je la cite souvent, mais j'ai envie de reciter Caroline Baker qui parle de la notion de rite de passage, que je trouve extrêmement pertinente pour caractériser un peu cette période. Dans les rites de passage, il y a trois parties. Il y a trois phases. Il y a une phase de séparation. Après, il y a une phase de temps liminal dans lequel les choses se passent. Et enfin, il y a une phase de réintégration et donc de capacité à regarder les choses différemment. Donc dans la notion de rite de passage qui était vécue chez les peuples premiers, il y a vraiment cette double force de supplice et aussi d'opportunité et d'aller découvrir vraiment quel est le trésor qu'on a en soi et qu'on peut mettre au service de la communauté. Autre notion, c'est vraiment, on parle beaucoup de monde d'avant et de monde d'après. Je pense qu'on est dans une période de renouveau, en fait. C'est aussi une période, et je vais reciter Anastasia Martin dans l'ouvrage dont je vous ai lu l'extrait, elle dit « C'est une naissance vu que manifestement ce n'est pas une mort » quand elle parle de son expérience, de la rencontre avec l'ours. Et il y a vraiment une forme de... une possibilité de voir émerger quelque chose de différent, quelque chose qui peut être créé. Il y a un gros potentiel de création dans la situation qu'on est en train de vivre. C'est aussi une possibilité de s'exprimer. C'est important de pouvoir partager les émotions, de pouvoir s'exprimer sur ce qu'on est en train de vivre, de mettre en commun, de pouvoir partager ce qu'on vit, de mettre des mots vraiment sur les mots, M-O-U-X. Je redis souvent cette expression, mais elle me semble très, très, très parlante. On est dans un temps aussi où on prend conscience de l'importance de la reliance avec le vivant. Reliance d'autant plus que Quand on est confiné chez soi, on sent l'importance de pouvoir aller dans la nature. C'est vraiment peut-être un appel à ça, à prendre conscience qu'on fait partie d'eux et que c'est important de pouvoir se relier. Et dernière notion, il me semble intéressante, c'est la notion de résilience, alors qui est souvent employée. La résilience en physique des matériaux, c'est la capacité d'adaptation et de résistance d'un corps au choc auquel il est soumis. Et c'est une notion qui a aussi été beaucoup développée par Boris Cyrulnik, qui a beaucoup écrit sur la question de la résilience. Et dans son ouvrage « Un merveilleux malheur », il revient sur l'importance du message d'espoir qui est intrinsèquement lié pour lui à la résilience. Et il nous dit que rien n'est écrit de manière permanente quand il s'agit du malheur, et que l'être porte en lui cette capacité de transformer, de traverser et de faire que ce qu'il a atteint au plus profond de sa chair et de son âme puisse se transformer en une force vivante. Voilà pour les éléments de constat. Et alors, je vous propose pour vraiment conclure de vous donner quelques pistes. Alors, c'est bien de poser un constat, mais à partir de ça, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je vous propose quelques pistes pour pouvoir passer, en tout cas, essayer de composter. J'aime bien cette notion que Michel Maxime emploie souvent, composter ses émotions. Alors, composter l'éco-anxiété en éco-sérénité, comment on peut faire ça ? Alors, moi, je le vois à travers trois niveaux, trois angles avec lesquels j'accompagne mes patients. C'est déjà, et ça part du constat de séparation dont je parlais tout à l'heure, c'est l'importance de restaurer le lien et de restaurer le lien avec soi-même, avec les autres humains et avec le reste du vivant. Et donc, ça, c'est ces différentes pistes, on les travaillera un peu plus en profondeur dans l'atelier de demain que je co-anime avec Marc Grand-Gérard, et on ira voir un peu plus ce qu'il y a dans ces différentes pistes. Donc, l'importance de restaurer le lien avec soi-même, c'est de pouvoir réunifier le corps et l'esprit, de prendre conscience qu'on est une unité psycho-organique et que si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas prendre soin de la planète, on ne peut pas prendre soin du vivant. C'est vraiment de pouvoir se réaligner et prendre conscience qu'on est un corps aussi qui a une capacité de penser. Aussi, donner une juste place aux émotions. Les émotions, elles ont vocation à être partagées, notamment, il y a une grande tendance qui s'est développée, les ateliers du travail qui relient, qui permettent à travers quatre étapes de pouvoir aller traverser ces émotions, de pouvoir surtout les partager avec d'autres, ce qui permet de sentir qu'on n'est pas seul. Autre piste, c'est aussi de modifier son rapport au temps. Moi, j'invite beaucoup mes patients à ralentir. Il y a un grand sentiment d'urgence qui est là. Il y a un tic-tac, mais le temps, il est lancé. Et quoi qu'on fasse, de toute façon, on ne maîtrise pas. Donc, il y a une importance de prendre le temps d'être et de pouvoir aussi lâcher le faire et de cultiver le moment présent qui est le seul qui est disponible. De comprendre aussi tout ce qui est vulnérabilité. Les vulnérabilités, c'est ça aussi qui nous permet d'être en lien avec les autres et d'aller regarder ce qui fait vulnérabilité aussi. Ça permet de pouvoir transformer des choses pour soi. Autre piste, c'est de pouvoir développer ses ressources et sa sécurité intérieure. J'invite beaucoup mes patients à pouvoir travailler sur qu'est-ce qui reste stable dans cet environnement où il y a un peu tout qui s'effondre. Ok, à l'extérieur, ça s'effondre, mais qu'est-ce qui fait ressource en moi ? Qu'est-ce qui continue à rester solide ? Qu'est-ce qui m'appartient ? Et c'est quoi ce sur quoi je peux m'appuyer ? Ensuite, la notion d'utilité dont je parlais tout à l'heure, quand je parlais d'Olivier qui se sent utile en allant à sa ferme pédagogique, c'est l'utilité, développer ce sentiment d'utilité, c'est vraiment quelque chose qui permet de se positionner à son échelle, à l'échelle de l'individu, de ne pas regarder trop loin le monde. Quand on se place à l'échelle du monde, ça amène à ressentir un grand sentiment d'impuissance qui amène souvent une forme de figement et à l'inaction. Donc, important de faire des petits gestes. Oui, ça a du sens et c'est quelque chose qui permet de sentir qu'on est utile au quotidien. Et c'est aussi un moyen de trouver du sens. Et ça, c'est en lien avec la notion de crise existentielle dont je vous parlais tout à l'heure. C'est important de pouvoir sentir que ce qu'on fait, ça a du sens. Et enfin, dernière piste dans le lien avec soi, c'est de pouvoir continuer à rêver, pouvoir continuer à s'émerveiller et à stimuler l'imaginaire. Certes, le moment présent, mais néanmoins continuer à faire des projets sur peut-être du court terme, du moyen terme, mais s'autoriser à penser plus loin de manière à ce que ces différents récits d'effondrement ne viennent pas couper la pensée, que ça ne soit pas quelque chose qui empêche la réflexion et que ça puisse permettre à la pensée de continuer à évoluer. Deuxième piste, en tout cas vraiment dans cette notion de restaurer le lien avec les autres humains, une chose qui me semble importante, c'est, et je l'entends beaucoup dans les consultations, j'ai beaucoup de patients qui me disent qu'ils veulent convaincre leur famille, leur conjoint, que c'est difficile, et souvent je leur dis que ben, non, on ne peut pas convaincre les autres que ce n'est pas possible, mais par contre, on peut être une force vivante, on peut être un exemple qui donne envie et que chacun a sa propre temporalité et sa propre manière d'accueillir ce qui fait aussi traumatisme dans ce monde qui se déconstruit, qui est en déclin. Donc, de percevoir aussi que la diversité, c'est une richesse. Et comme le dit Pablo Servigne, on aura besoin de tout le monde pour construire le monde de demain. Et donc, c'est vraiment de regarder la diversité, les différentes manières de voir le monde aussi comme une richesse. Autre piste, c'est de pouvoir regarder au-delà de soi. On est très, 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 très auto-centré. On a une vision très occidentalo-centrée. Et de pouvoir se déplacer et se dire que ben, dans les autres pays du Nord, mais il y a déjà des gens qui souffrent de ce réchauffement climatique qu'on a créé, que l'espèce humaine a créé, et voilà, qu'on est responsable de ça, et qu'on est aussi responsable de ce qu'on choisit pour les générations futures. Donc de regarder au-delà de soi dans ce que peuvent vivre déjà certaines populations, et aussi ce que seront amenés à vivre ben, nos enfants, les générations présentes, et puis celles qui viendront ensuite. Enfin, mettre l'accent sur la sécurité relationnelle. Alors, seul, on fait des choses, hein, mais seul, souvent, on survit. Donc, moi, même si on est dans un processus complexe de forme de séparation, on peut quand même rester en lien les uns avec les autres. On est tous connectés là pour partager ce temps de réflexion. On est en lien et la notion d'entraide, de sécurité, de lien, de dimension locale, elle est très importante. Et je partage à ce titre en France, au début de la crise du Covid, c'est à l'initiative de Pablo Servigne et pas seulement, mais il y a eu tout un mouvement qui s'est créé, qui s'est appelé Covid Entraide, pour répertorier des actions locales d'entraide autour, donc vraiment pour favoriser les liens et puis voilà, venir un peu à bout de ce processus de séparation. Et enfin, dernière piste, c'est pour répondre à ce que Baptiste Morisot appelle cette crise de la sensibilité. Moi, je pense que c'est très important aujourd'hui que chacun puisse passer du temps dans la nature. Alors, j'aime pas trop ce terme parce que nature, ça vient s'opposer à nature-culture, donc je préfère dire le vivant. Mais c'est si on passe du temps à l'extérieur, à regarder les magnifiques trésors qui sont sur cette planète, on va ressentir ô combien c'est triste de les perdre, et on va avoir envie de pouvoir d'autant plus les protéger. C'est aussi très important de pouvoir retrouver notre juste place dans l'écosystème et de lâcher cette vision d'anthropocentrisme où nous sommes au centre du monde, au centre de l'écosystème. Pas du tout, on fait partie, et si on ne prend pas soin de la Terre, elle nous le fera bien savoir. Donc c'est important de pouvoir lâcher notre posture d'ego et puis d'adopter une posture humble et de se dire que voilà, on n'est pas au-dessus en fait, on fait juste partie, et de prendre notre responsabilité par rapport à ça. Autre piste, c'est vraiment de s'ouvrir à la dimension spirituelle, c'est vraiment de prendre conscience qu'on fait partie d'un tout. Voilà, on est un petit élément d'un grand tout, et ça, ça porte aussi. C'est quelque chose qui, sur lequel on peut s'appuyer, alors que ce soit, c'est pas forcément une connotation, il n'y a pas forcément de mouvement religieux, c'est vraiment une croyance. Ça peut être, on peut être rattaché au vivant, voilà, avoir cette conscience qui porte de au-delà de soi, et c'est extrêmement important. Et enfin, dernière piste, c'est cultiver la gratitude. La gratitude, c'est vraiment un mouvement de reconnaissance de quelque chose qui est en dehors de soi. Reconnaître que moi, j'ai beaucoup de gratitude pour cet événement, pour avoir la possibilité de partager ça avec vous. On peut avoir de la gratitude aussi pour un joli coucher de soleil, pour plein de choses qui se font en dehors de soi et qui permettent vraiment de prendre conscience que on fait partie de ce grand tout, de ce vivant qu'il est absolument nécessaire aujourd'hui de préserver. Je vais devoir conclure cette première partie d'exposé. Alors, j'ai envie de vous dire que c'était un pari pas forcément simple que le titre de cette conférence, et si on transformait l'éco-anxiété en éco-sérénité. J'ai un de mes collègues qui m'avait dit, mais quand j'avais parlé de cette conférence, il m'avait dit, mais en fait, toi, est-ce que tu es éco-sereine? Donc, j'ai dit que non, que je n'étais pas forcément éco-sereine, mais que, en tout cas, j'essayais de réfléchir à des pistes qui allaient me permettre de tendre vers cet état, de manière à pouvoir le cultiver au maximum. Donc voilà, je pense que c'est quelques pistes, et il y en a probablement plein d'autres, et ça, c'est aussi l'intelligence collective qui fait que voilà, à travers beaucoup de pistes différentes, on va peut-être réussir à répondre à ces différentes problématiques. Et je partage juste pour finir que c'est à partir du moment où on est face au problème qu'on arrive à trouver la solution. Donc voilà, c'est poser ce constat aujourd'hui, c'est vraiment poser le problème, et à partir de ce moment-là, on peut se mettre en mouvement et essayer de trouver des solutions. Et on a encore aujourd'hui la capacité de choisir, de prendre les bonnes décisions pour préserver ce vivant. Et pour conclure, j'ai envie de vous partager un poème qui est issu d'un ouvrage qui s'appelle « Il pleut des étoiles dans notre lit ». C'est 5 poètes du Grand Nord, donc ça sera mon mot de conclusion. Le poème s'appelle « Programme de principe ». Et alors il dit « La prochaine fois que je viendrai au monde ici, je transcrirai chaque minute dès le début. Je n'en consommerai pas une seule sans réfléchir d'abord. Et le cas échéant, j'arrêterai le temps afin qu'il attende ma décision. Je choisirai les jours de calme, le travail, les proches les plus sages, mes amours les plus belles et les plus fidèles. Avant la scène de l'amour, pendant et après, ni mon partenaire ni moi-même ne devrons nous sentir étrangers. Jamais, si la vie dépérit, et avec elle toutes les choses, je ne me dirai que demain il sera trop tard. »
Merci. Voilà.
Merci pour votre attention.
Merci beaucoup, Charline, pour cette présentation extrêmement inspirante et aussi éclaircissante sur tous ces concepts et peut-être toutes ces émotions, ce sentiment qu'on ressent les uns et les autres. Avant, on aura un grand moment pour échanger avec toi tout à l'heure de questions-réponses, mais juste avant ça, je vous propose qu'on se retrouve par petits groupes de 3. Vous allez être mis par petits groupes de 3 de manière aléatoire par Audrey. Et on va vous donner un moment pour échanger par 3 sur ce que vous venez d'entendre en partant de votre ressenti. Vous aurez une petite dizaine de minutes avec cette idée de se dire l'idée c'est que chacun puisse s'exprimer, donc que tout le monde ait le temps de s'exprimer. Vous avez le temps, mais c'est bien d'être conscient du temps, de la circulation de la parole dans votre petit groupe de 3. Et si une question émerge pendant cette discussion, vous pouvez la noter sur un bout de papier pour pouvoir la poser dans le chat par la suite, dans le moment d'échange en plénière. Je pense que comme on est nombreuses et nombreux ce soir, ça vaut la peine de faire essayer d'émerger des questions communes qui sont comme ça, qui serviront au plus grand nombre au moment de l'échange. Voilà, Audrey, je te laisse faire la magicienne, et chacun dans des petits groupes de 3.
J'ai juste un mot à dire par rapport à ça. Merci Elise. On a plusieurs personnes qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas participer au sous-groupe. Donc, on va vous envoyer dans les sous-groupes. Au niveau technique, du coup, c'est un peu compliqué si on doit commencer à enlever cette personne et les choisir dans la liste. Vous êtes beaucoup. Donc, ce que je propose, c'est qu'on envoie automatiquement tout le monde dans les sous-groupes et les personnes qui ne veulent pas...